Radio Campus Tours.
Le 5 juin 2025 se tenait la deuxième journée nationale de la bioproduction de médicaments sous le haut patronage du président de la République, Emmanuel Macron. Portée par les acteurs de la filière rassemblés sous la bannière de France Bio Lead, la journée nationale de bioproduction de biomédicaments se veut un rendez-vous annuel pour faire découvrir et partager les avancées de développement de la filière. À Tours, c'est l'occasion de visiter le BioCube, structure dédiée aux biomédicaments portée par l'Université de Tours et le groupe IMT, qui se trouve rue du Plat d'Étain, tout près du restaurant universitaire et du site du même nom de l'Université de Tours. Nous nous rendons sur place tôt matin, avant l'ouverture du village partenaire au grand public.
99.5 FM.
Une filière qui recrute, oui, mais sur quel poste ? Le BioCube est un équipement exceptionnel. Pour qui ? Pourquoi faire ? Et pourquoi cette implantation à Tours ? Dans un contexte mondial de résistance accrue aux antimicrobiens et prenant en compte le poids économique que cela représente dans le monde, les deux principales aires thérapeutiques d'intérêt pour les biomédicaments sont, selon le LEM, l'oncologie et l'infectiologie. Pourquoi ce type de traitement intéresse particulièrement ces domaines ? Milieu stérile, usage unique et développement durable, comment sont abordés ces enjeux dans les formations dispensées au BioCube Institute ? La délégation aux droits des femmes et à l'égalité professionnelle du Sénat pointe le manque de femmes dans le domaine de la recherche scientifique, notamment aux postes les plus rémunérés et les plus reconnus. Fait-on la même observation dans le secteur du biomédicament ? Pour répondre à ces questions et à quelques autres, je rencontre Hugo Chardon, pharmacien bioproduction, directeur du BioCube Institute, Émilie Renaud, leader écosystème Life Sciences France au GI Group, Arthur Coupez, formateur en bioproduction industrielle au groupe IMT, et Joanne Leclerc, responsable communication et innovation digitale au groupe IMT.
RadioCampusTour.com.
Bonjour Hugo Chardon.
Bonjour.
Donc vous êtes pharmacien bioproduction et directeur du BioCube Institute. Alors le BioCube, ça appartient à qui ?
Le BioCube, ça appartient à l'Université de Tours. Donc c'est un bâtiment qui a une dizaine d'années. C'est un projet collaboratif entre l'Université de Tours et le groupe IMT. C'est un partenariat public-privé. Et ce que nous sommes en train de développer, justement, c'est ce partenariat, de le relancer, d'aller plus loin et vraiment de montrer que c'est un modèle qui peut fonctionner.
Donc ça, le bâtiment appartient à l'Université de Tours, mais alors comment se situe IMT dedans ? Est-ce que vous êtes, disons, hébergé ? Vous êtes colocataire ? Comment ça marche ?
Alors c'est ça, oui, on est hébergé. Le bâtiment est co-géré par les deux entités. Les murs appartiennent à l'université et l'IMT comme l'université déploie des formations au sein du BioCube. Initialement, le bâtiment appartenait à l'État. Il a été cédé à l'université, mais initialement, c'est bien un projet collaboratif entre le groupe IMT et l'Université de Tours.
Donc il y a quoi dans ce bâtiment, en fait ? Qu'est-ce qu'on y trouve ? Des salles de cours, on imagine, mais quoi d'autre ?
Des salles de cours, tout à fait, et surtout un plateau technique, hein, c'est ce qui fait la particularité du bâtiment, avec des équipements industriels. À l'échelle industrielle. Donc le but, c'est vraiment de former des futurs professionnels du milieu industriel, de la bioproduction en particulier, sur des équipements industriels, des équipements de pointe, des équipements récents.
Donc de la formation, peut-être des prestations aussi ?
Des prestations, alors c'est en cours de développement. Pour le moment, c'est assez limité ce que nous proposons. Le BioCube héberge néanmoins une start-up.
Mais alors, quelles sont vos missions ici ? Vous êtes gestionnaire du lieu ?
Alors, moi, je suis directeur, tout à fait, je suis gestionnaire du lieu. Je représente les deux entités. Je suis salarié du groupe IMT, mais je représente également l'Université de Tours. Mes fonctions sont d'assurer le quotidien du bâtiment, son bon fonctionnement, mais surtout aussi de le développer sur différents axes. On a d'abord évidemment l'axe de la formation, l'axe pédagogique, puisqu'on est avant tout un organisme de formation et un bâtiment fait pour la formation. Mais je dois également développer ce bâtiment sur d'autres axes, puisque le BioCube a pour vocation d'aider la recherche et le développement pour accueillir de nouvelles entités qui peuvent être des labos privés, publics, des start-up, des industriels de différentes tailles, et en effet proposer des offres de services, des prestations pour ces différentes entités au sein du BioCube, avec le parc équipementier que nous avons, les équipements qu'ils soient de production ou analytique.
Est-ce que le BioCube est rentable ?
On est un organisme de formation. Avant tout, le but, c'est de proposer des formations de qualité, développer de nouvelles formations. Ce qui est sûr, c'est que ce bâtiment, voilà, sur l'aspect financier, est géré par le groupe IMT et l'Université de Tours. Et que moi, parmi mes missions, c'est le développement de partenariats, continuer à développer avant tout les formations, hein, c'est l'axe prioritaire, mais comme je le répète, tisser des relations avec différents partenaires, des fournisseurs d'équipements, de solutions, technologies, des équipementiers également pour avoir accès eh bien, de nouveaux équipements, de nouvelles technologies également, et pouvoir en faire bénéficier la formation. Également les acteurs que nous pourrons accueillir et proposer des diverses prestations. C'est aussi voilà, permettre à ces entités, laboratoires, start-up, de pouvoir bénéficier aussi de ces équipements. Et dans ce sens, oui, rentabiliser le BioCube dans les prochaines années.
Alors, vous parlez de formation, de développer des partenariats donc ici en région centre autour du BioCube. Quels besoins identifiés sur le territoire répond l'implantation du BioCube ?
Alors le BioCube initialement, hein, il a 10 ans, là, le BioCube est rentré dans sa 10e année. Le BioCube, il avait pour objectif de répondre à l'arrivée du biomédicament, qui est quelque chose de très spécifique. On sort de la pharmacie conventionnelle, là on travaille avec le vivant, donc c'est une autre approche, c'est d'autres compétences, et ces industriels ont aussi besoin de ces compétences et d'avoir de nouvelles recrues correctement formées, et le BioCube a été conçu eh bien, pour anticiper cette demande et ce virage vers le biomédicament et la bioproduction.
Mais est-ce qu'il y avait un terreau particulier, moins fertile en fait, pour l'implantation du BioCube à Tours, dans la région centre ?
Oui, tout à fait. La région Centre-Val-de-Loire et la Touraine connaît bien le biomédicament. Quand on parle de biomédicaments, on parle de différents types de médicaments qui eh bien, s'attaquent à des axes thérapeutiques variés. Le vaccin, par exemple, est un biomédicament et eh bien, la Touraine, la région centre, est une terre de vaccins. À titre d'exemple, le vaccin contre l'hépatite B, c'est Philippe Maupas. La faculté de pharmacie, hein, d'ailleurs, a pour nom faculté de pharmacie Philippe Maupas. Et puis, évidemment, nous avons beaucoup d'acteurs qui travaillent aujourd'hui sur différents types de vaccins et même des voies d'administration nouvelles, c'est-à-dire des vaccins aujourd'hui sans aiguille qui sont en train d'être développés avec d'autres approches. Je pense par exemple à un vaccin mucosal, hein, qui fait appel aux muqueuses et à l'immunité des muqueuses, qui est une nouveauté, vraiment une innovation qui a été mise plusieurs fois en avant dans la région.
Donc on pense par exemple aux travaux du professeur Dimier Poisson. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous avez pu travailler ?
Oui, tout à fait. J'échange régulièrement avec Isabelle Dimier Poisson.
Et si on raisonne en termes, disons, d'attractivité, de pôle de compétitivité, on peut rappeler aussi qu'ici, il y a le biomédicament, mais aussi la cosmétique, et il y a quand même la Cosmétique Vallée. Donc ça, est-ce que c'était un élément aussi qui était important dans l'implantation du BioCube ici ?
Oui, tout à fait, parce que les bioactifs cosmétiques font partie, en tout cas, des axes couverts par le BioCube. Et nous cherchons d'ailleurs aussi à renforcer nos liens avec la Cosmétique Vallée. Au-delà du vaccin, la Touraine est aussi connue pour eh bien, son expertise au niveau des anticorps thérapeutiques. On a ici des experts, et notamment, je pense à Hervé Wattier, hein, qui voilà, a dirigé pendant plusieurs années le LabEx MabImprove, voilà, qui a fait bien sûr la fierté du territoire sur la dernière décennie.
Et alors, on lit aussi sur le site du BioCube que le BioCube appartient à l'écosystème France BioLead. Alors, qu'est-ce que c'est ?
Tout à fait. Alors, l'IMT est membre de France BioLead. Donc, France BioLead, c'est une association récente. Hein. Ils ont deux ans et demi, qui a été bien structuré par l'État et des partenaires industriels, dans le but justement de fédérer, dynamiser, piloter la filière, l'ensemble de la filière à l'échelle nationale. Ce n'est pas qu'un réseau professionnel, non, non, le but c'est vraiment de travailler sur des axes qui permettent de renforcer l'attractivité de la France hein, vis-à-vis du domaine du biomédicament, voilà, de mettre l'accent sur nos forces, surtout de rapprocher les différents acteurs pour, d'ici 2030, faire de la France le leader européen dans le domaine du biomédicament et de la bioproduction.
C'est très ambitieux.
C'est ambitieux, mais je crois que c'est nécessaire. On est sur un axe stratégique et on l'a vu à la suite de la période Covid, de la pandémie. Un certain nombre d'axes ont été développés par l'État. Je pense à l'Agence de l'innovation en santé, par exemple, qui permet eh bien, voilà, d'accélérer l'innovation dans ce domaine. Il faut savoir que c'est 800 millions qui ont été mis sur la table eh bien, par cette dynamique et par le plan France 2030. Pour développer la filière, donc encore une fois pour souligner l'importance stratégique de cette filière.
D'ailleurs, puisque vous parlez de vaccins et de Covid, je ne résiste pas à vous demander voilà, à quoi vous vous occupiez à cette époque. Il me semble justement que vous travaillez sur les vaccins Covid, mais peut-être du côté belge.
Oui, tout à fait. J'ai pu travailler eh bien, chez un industriel français en Belgique, Novacep, qui était spécialisé dans la fabrication de vecteurs viraux. Et donc AstraZeneca, nous avons été sélectionnés par AstraZeneca, notamment pour produire leur vaccin contre le Covid-19. Voilà, j'ai eu l'opportunité, moi, de travailler directement en première ligne, vraiment en zone de production, en manageant des équipes, une équipe de techniciens, d'une trentaine de techniciens sur la fabrication de ce vaccin.
Comment s'est opéré le passage à la direction du Biocube ? Vous en aviez marre de produire des vaccins ?
L'Europe ne voulait plus du vaccin AstraZeneca. Voilà, donc on a cessé la production. Moi, je suis allé au bout de ce projet et après avec ma compagne on avait la volonté de revenir, enfin on avait comme projet de revenir en France, voilà, près des nôtres, avec des projets familiaux aussi, voilà, des enfants et donc voilà, moi je suis allé jusqu'au bout du projet, à la fin du projet, jusqu'au dernier lot vraiment qu'on a libéré, j'ai démissionné, je suis rentré en France. Et j'ai intégré ensuite le Génopôle, une entreprise qui travaillait avec le Généthon. Donc le Généthon qui est laboratoire de recherche en fait, qui bénéficie de la levée de fonds du Téléthon pour la recherche contre les maladies génétiques, notamment contre les myopathies.
Émilie Renaud, je travaille dans un cabinet de recrutement qui se nomme GI Group, avec la fonction de responsable des relations extérieures pour la partie « Life Science ». Donc notamment la partie des industries pharmaceutiques et biopharmaceutiques pour leur recrutement.
Alors, quel bon vent vous amène ici à l'IMD ?
Eh bien, la nécessité et la volonté du groupe de faire la promotion des métiers et de la filière du biomédicament, puisque cette industrie est en plein essor et GI Life Science est sollicité par ses clients, qui sont à la fois les laboratoires et les fournisseurs de cette industrie, dans le cadre de leur recrutement, et qui sont aujourd'hui assez importants, qui sont en développement.
Alors, quand on parle de médicaments, on associe souvent aux pharmaciens, mais il y a sûrement plein d'autres métiers. Est-ce que vous voudriez nous en dire plus ?
Bien sûr. Alors déjà, le pharmacien, oui, on parle souvent du pharmacien d'officine, mais moi, je vais parler surtout du pharmacien industriel, hein, qui est très important dans le milieu de la production du médicament, avec différentes fonctions qui peuvent être occupées à la fois à la qualité, à la production, au réglementaire, au commercial. Donc on peut les retrouver à un certain nombre de postes. Mais c'est également des fonctions avec des qualifications moindres, des niveaux Bac plus 2, Bac plus 3. Et c'est très souvent d'ailleurs, hein, c'est ce qui est attendu aujourd'hui par nos industriels. France entière, on peut pas dire qu'il y ait des régions plus particulières que d'autres, mais on a un vrai essor de l'industrie du biomédicament avec des profils de techniciens de laboratoire, techniciens en bioproduction, également l'essor des métiers de la data, puisque aujourd'hui des profils de data scientist sont également particulièrement recherchés. La qualité, j'en ai parlé, à la fois par des coordinateurs, des chargés de qualité, La production, forcément, c'est le cœur du réacteur. La promotion, les métiers de la commercialisation de ces biomédicaments. Et puis, il ne faut pas l'oublier, tous les métiers en amont, qui sont les métiers autour de la R&D, des chefs de projet, des chargés de recherche. Donc, il ne faut pas, faut surtout désacraliser le milieu de l'industrie, ce n'est pas, et particulièrement de l'industrie pharmaceutique et biopharmaceutique, ce n'est pas uniquement des personnes à fort diplôme, quoi, très diplômées. Hein, je rappelle, environ 80% des postes sont quand même essentiellement sur du niveau bac plus 2, bac plus 3. Le bac est quand même une porte d'entrée nécessaire avec des formations très largement proposées sur le territoire français. Différents types de centres de formation existent, des BTS, des BUT, des écoles comme le groupe IMT à Tours particulièrement spécialisé, des licences universitaires. Et donc à partir de ces diplômes, ouvre les portes d'un certain nombre de postes dans le milieu industriel pharmaceutique et biopharmaceutique. Et ouvre aussi, ça je voudrais le préciser, à des évolutions de carrière. Souvent, le mot BTS ou le mot de technicien fait peur. Les postes de technicien aujourd'hui, ce sont des experts, en fait. C'est ce qu'il faut vous voir, en fait, derrière les techniciens attendus. Et ces techniciens sont aussi responsables de projets, sont dans des équipes et ont la possibilité, particulièrement dans ces industries, d'évoluer au sein des entreprises et avoir une carrière évolutive. Et d'autant plus dans le milieu de la bioproduction. La bioproduction est un univers en développement, en transformation, et par conséquent, les fonctions, les postes dans les entreprises vont évoluer avec l'évolution de la recherche, du développement et de l'évolution des typologies de production dans ces domaines-là. Donc, c'est des postes qui vont évoluer. Aujourd'hui, les industriels attendent plutôt un niveau bac plus 2, bac plus 3, par aussi la possibilité de faire des formations en alternance qui permettent aussi d'expérimenter, de mettre en pratique la connaissance théorique de ces formations. Donc, ils sont assez friands de ces parcours de formation. Alors, en fait, c'est ouvert à tout type de jeunes. Il ne faut pas se dire, moi, je suis pas fait pour les sciences. Aujourd'hui, on a des gens qui sont en reconversion professionnelle, qui viennent de milieux comme l'agroalimentaire. À partir du moment où on est consciencieux, on a envie d'apprendre, on suit un process, on est, voilà, c'est des gens qui sont plutôt, carrés, qui ont le sens, du travail bien fait, qui ont envie d'apprendre. C'est ouvert vraiment à même des gens qui sont en reconversion professionnelle. On a beaucoup de gens qui ont le sentiment d'être acteurs de la santé un peu différemment. Voilà, on agit pour le bien-être et la santé de nos proches, en fait, quand on travaille dans ces milieux-là.
Donc, c'est des postes, enfin, des filières où il y a du recrutement, en fait, où on trouve aisément un emploi. Et qu'en est-il des salaires ?
Alors, aujourd'hui, encore un peu plus il y a quelques années, mais encore aujourd'hui, il est clair que ce sont des profils qui sont pénuriques. On peine à recruter. Hein. C'est pour ça qu'on fait la Journée nationale de la bioproduction. C'est qu'il faut sensibiliser pour orienter dans ces domaines-là. Et donc, le fait d'avoir... la rareté, en fait, des profils fait que la rémunération est plutôt intéressante. Donc, aujourd'hui, ce sont des collaborateurs qui sont très attendus. Donc, les salaires sont quand même intéressants.
Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu, en fait ?
C'est compliqué, puisqu'en fait... la majorité des entreprises sont soit en 2-8, en 3-8. Donc, il y a aussi des primes. Parler de salaire, c'est complexe en fonction s'ils sont sur des horaires de nuit. Ils sont dans des zones aussi avec des conditions particulières de travail. Donc, il y a aussi des primes qui arrivent aussi dans ce cadre-là.
En tout cas, c'est attractif.
En tout cas, c'est attractif et bienvenue dans ce secteur. Un secteur d'avenir, je pense. Enfin, j'en suis sûre même. Et où les entreprises, que ce soit les donneurs d'ordre ou les fournisseurs, attendent avec impatience les collaborateurs de demain.
Merci à vous. Donc, on vous retrouve sur cette journée, peut-être, que vous tenez un stand.
Oui. Eh bien, on est présent toute la journée. En effet, présent pour animer des ateliers avec le LEM, pour présenter, en effet, les métiers et le secteur de du biomédicament. On est également sur un stand. Et puis, vous pouvez venir nous voir pour des entretiens de recrutement, des entretiens d'orientation pour vous accompagner aussi dans votre parcours personnel et professionnel.
Donc bah justement, on va parler peut-être un peu de ces fameux biomédicaments. Alors, d'après le LEM, il y a deux principales aires thérapeutiques d'intérêt, donc l'oncologie, 32%, et l'infectiologie. Alors pourquoi ces deux domaines-là, pourquoi ça les intéresse plus que d'autres ?
Il y a vraiment une augmentation importante des cancers. Hein. C'est un peu la maladie du siècle. Hein. Et donc forcément, il y a un grand intérêt à développer de nouveaux axes thérapeutiques pour venir à bout de certains cancers qu'on a du mal à traiter aujourd'hui. D'un autre côté, l'infectiologie représente encore un axe important, déjà puisque aujourd'hui, les traitements d'antibiothérapie arrivent un petit peu à bout, donc il faut trouver des alternatives. Et on a encore aujourd'hui beaucoup de maladies infectieuses qu'on a du mal à résoudre, simplement à traiter.
Est-ce qu'on peut aussi ajouter le contexte donc mondial, comme dans l'antibiorésistance, la résistance aux antimicrobiens?
Oui, c'est ça. Mais c'est-à-dire qu'on fait face aux vivants et donc les microbes, les bactéries en particulier, les micro-organismes, comme tout être vivant, s'adaptent. Donc voilà, les antibiotiques ont été une révolution hein, quand ils ont été mis sur le marché. Mais aujourd'hui, voilà, ces micro-organismes se sont adaptés et sont de plus en plus résistants à un certain nombre d'antibiotiques. Donc, un des enjeux, évidemment, un des défis, c'est trouver de nouvelles molécules, de nouvelles alternatives tout aussi efficaces contre les bactéries, contre ces micro-organismes et ces infections.
Donc, c'est innover ou périr ?
Bon, on n'en est pas là non plus, mais en tout cas, il faut être attentif. Hein. On a en tout cas de grandes instances et entités qui surveillent partout dans le monde l'émergence de nouvelles pathologies. Et on l'a vu, on n'est pas à l'abri de pandémies. Et donc, il faut qu'on se prépare. En tout cas, il faut qu'on puisse être préparé à de futures problématiques de cet ordre dans les prochaines années.
Pour les non-spécialistes que sont nos auditeurs et moi-même, est-ce qu'on pourrait nous donner des exemples en fait, de biomédicaments ? Est-ce que ça peut être des vaccins ARN messagers ? Est-ce que la phagothérapie, ça en fait partie ?
Alors là, on parle de choses très innovantes. Les biomédicaments, certains sont bien caractérisés, mais on a de plus en plus, en effet, de molécules, de produits innovants qui arrivent, qui sont difficiles à classer et qui sont difficiles également à prendre en charge par les autorités réglementaires. Ça, c'est également un des défis. Voilà, pour couvrir un petit peu et expliquer ce que sont les biomédicaments, on a trois, quatre axes qu'on arrive à différencier. Les vaccins, la grande famille des protéines, parmi lesquelles on va trouver les anticorps monoclonaux avec l'immunothérapie, qui fonctionne très bien aujourd'hui, hein, qui a vraiment fait ses preuves et qui ne cesse de s'améliorer. Et puis, on va trouver un troisième axe, que sont les médicaments de thérapie innovante. Là, on va parler de thérapie génique, de thérapie cellulaire. On arrive sur des domaines très pointus, très poussés, où on vient vraiment traiter le problème, la maladie à sa racine, à sa source.
Alors, quelle offre au Biocube pour les équipes de recherche qui voudraient tester un candidat médicament ?
Alors, pour le moment, pas d'offre précise. Nous sommes en train de développer le modèle. Évidemment des laboratoires de l'écosystème local sont amenés à intervenir de temps en temps, mais pour le moment, pas de modèle précis.
Alors moi, je suis Arthur Coupez, je suis formateur du groupe IMT depuis maintenant 8 ans, et j'interviens sur les thématiques de la bioproduction industrielle pour des niveaux techniciens, notamment.
Alors ça consiste en quoi, vos interventions ?
Alors ça consiste à former les jeunes sur les procédés de culture cellulaire et de purification des biomédicaments.
Donc là on a mis des magnifiques surchausses et on va aller visiter un laboratoire. Qu'est-ce qu'on va aller voir ?
Alors on va aller voir différents laboratoires, hein, notamment des laboratoires dans lesquels on va voir des bioréacteurs qui vont nous permettre eh bien, d'amplifier les cellules, hein, c'est-à-dire de multiplier les cellules. On va voir aussi des équipements qui vont nous permettre eh bien, de purifier les biomédicaments une fois que les cellules auront produit les molécules d'intérêt. Et puis on va aussi visiter des laboratoires d'analyse. Hein, et donc tous ces équipements nous permettent de former nos jeunes.
Ben c'est parti, je vous suis.
Allez. On va aller par là. Donc comme on pourrait le retrouver dans une usine de bioproduction, on a ici un magasin dans lequel on stocke nos matières premières et nos différents consommables qui vont être utilisés durant les étapes de la bioproduction en fait. Hein. Et effectivement, on peut constater qu'on utilise beaucoup de consommables à usage unique qui doivent être stériles hein, pour pouvoir effectivement manipuler des agents vivants.
Je regarde ce qu'il y a sur les étagères, calcium chlorure, glucose anhydre. Et là, il y a plein d'autres choses. Là, c'est rangé par ordre alphabétique, lactose, il y a énormément de choses. Donc tout ça, est-ce que c'est des produits qui sont classés comment ? C'est des produits dangereux, pas dangereux ?
Alors, certains produits ne sont pas du tout dangereux. Hein. Il y a notamment du chlorure de sodium, là, c'est du sel de cuisine. Hein. Mais pour d'autres produits, effectivement, il peut y avoir des risques chimiques. Il y a des substances qui peuvent être aussi CMR, c'est-à-dire cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques. Et là, effectivement, il faut se protéger, importer des équipements de protection adaptés et les manipuler aussi dans un environnement qui lui-même est adapté.
Donc là, on a plein de choses, comme vous l'avez dit, à usage unique. Donc c'est pas très écolo. Donc ça, est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez à vos étudiants ?
Oui, c'est quelque chose sur lequel on sensibilise nos étudiants, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les industries de santé ne sont pas forcément très écologiques. Mais cette question, elle est importante. Et on sait que les industriels font de plus en plus d'efforts hein, pour réduire leur impact et développer des procédés qui sont plus vertueux, effectivement. Donc, une fois qu'on a récupéré nos matières premières, eh bien, on va se diriger vers la centrale, ce qu'on appelle la centrale des pesées, hein, c'est-à-dire un équipement dans lequel on va réaliser nos pesées. Hein. Donc, dans cette centrale, on a des hôtes qui vont venir aspirer hein, pour éviter effectivement de disperser les matières en dehors de la centrale. Puis, on retrouve aussi des balances hein, de précision qui vont nous permettre effectivement de bien mesurer les quantités nécessaires. On dispose dans un mont de charge et les opérations de production se déroulent à l'étage. Et on va y aller de ce pas.
Voilà, je vous présente d'ailleurs Joanne Leclerc hein, qui vient d'arriver, hein, qui travaille pour le groupe IMT depuis déjà une petite dizaine d'années et qui est habituée des formations que peuvent proposer l'IMT. Voilà. Donc alors aujourd'hui c'est 60% hein, des médicaments en développement qui sont des biomédicaments. Donc on voit arriver là dans les tuyaux des médicaments qui seront commercialisés dans les prochaines années, ce qui justifie quelque part eh bien un besoin en formation, en recrutement, et donc l'importance hein, de développer ces formations, qu'elles soient technologiques ou universitaires, académiques.
Donc au Biocube, on peut trouver des formations qui vont aller du bac plus 2 au bac plus 5, qui vont aller du BTS à la licence et au master, sur des métiers d'opérateur et de technicien de production, et sur des métiers de management de la production et du contrôle qualité. Donc ce sont des formations qui sont dispensées par le groupe IMT et par l'université de Tours, avec un spectre assez large qui permet de couvrir une grande partie des métiers représentatifs de la bioproduction, puisqu'on est dans le champ de la bioproduction sur des métiers qui sont en tension avec une forte recherche de compétences et de main-d'œuvre.
Et alors, comment ces métiers-là travaillent avec les pharmaciens, justement ?
Alors, c'est des corps de métiers tout à fait différents, bien sûr. Hein. On a besoin d'une complémentarité entre différents corps de métiers. Le pharmacien est avant tout le garant de la qualité. C'est comme ça qu'il est formé. À côté, on a besoin d'opérateurs, de techniciens, on a besoin d'ingénieurs. Voilà, c'est tout un environnement et un écosystème. Et aujourd'hui, avec les innovations qui arrivent, qu'elles soient technologiques ou numériques, eh bien, on a besoin même de nouvelles compétences, de nouveaux corps de métier. Je pense par exemple au métier bien du digital, du numérique, avec l'intelligence artificielle, l'automatisation. Hein, on travaille avec des équipements qui sont tout automatisés à la pointe. Est nécessaire pour maîtriser aujourd'hui les différents paramètres du vivant, puisque ce sont un des défis que nous avons, maîtriser l'ensemble des paramètres du vivant, puisque nous travaillons avec des produits biologiques, et la difficulté, elle est là.
Et puis sur les biotech et la bioproduction, on est sur un champ où on trouve l'innovation un petit peu à tous les étages, puisqu'on a de l'innovation avec les nouvelles molécules, les nouvelles thérapies, on a de l'innovation sur les techniques de production, les équipements et les procédés de fabrication. Et puis on a aussi tout ce qui va être, comme le disait Hugo, la digitalisation de la production, l'apport de l'IA, l'apport des outils informatiques pour optimiser et sécuriser les bioproductions.
Est-ce que c'est des compétences qui sont transverses, qu'on peut utiliser dans d'autres domaines de compétences ?
C'est des compétences qui se développent de plus en plus dans la bioproduction. Les doubles compétences, IA, tech et biologie, sont encore rares. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de réussir à faire parler ces différents secteurs pour qu'ils se comprennent et qu'ils puissent tirer vers le haut la filière. Et on voit que dans nos formations s'incorporent ces notions d'intelligence artificielle et de digitalisation pour avoir des candidats qui vont être capables de déployer tout ça à grande échelle sur les sites de production.
Donc c'est-à-dire que c'est un bon plan de s'engager dans ces filières-là quand on est étudiant ?
Eh bien, c'est un très bon plan si on est passionné par la biologie, si on est passionné par la data analyse, si on est passionné par l'IA. Il y a des passerelles et c'est quelque chose qui va recruter dans les années à venir d'ici à 2030. On voit que ça va être pourvoyeur de beaucoup d'emplois.
On est vraiment à l'affût de ces compétences transversales. Et donc c'est soit, en effet, comme le dit Johan, d'apporter des compétences digitales, numériques, à des cursus déjà plus scientifiques ou biologiques, ou à l'inverse, apporter des compétences plutôt scientifiques et biologiques à des cursus plutôt orientés informatique, digital ou numérique.
C'est les geeks du médicament ?
Un peu, on pourrait dire ça comme ça, oui.
Une belle transition.
Donc ici, on est dans les espaces dits d'amplification. Donc c'est dans ces espaces qu'on va faire se multiplier les cellules, dans des environnements contrôlés, et notamment dans ce qu'on appelle des bioréacteurs. Donc au niveau des bioréacteurs, on va retrouver des cuves confinées. Dans ces cuves, on va mettre du milieu de culture. Il va y avoir aussi des sondes qui vont nous permettre de contrôler les paramètres de la culture, comme par exemple le pH, la saturation en oxygène, l'agitation, la température, en fait. Et on va comme ça passer dans des bioréacteurs de format croissant jusqu'à obtenir une quantité satisfaisante de cellules qui ont toutes produites pour nous la molécule d'intérêt, comme par exemple un anticorps. Ce bioréacteur-là, il est en 60 litres en volume utile, ce qui reste un petit format. En industrie, on parlerait d'un format pilote, hein, pour faire du développement par exemple. Mais en industrie, on peut avoir des bioréacteurs de plusieurs milliers de litres, effectivement. Quand on sait que une cellule va mettre, on va dire, une vingtaine d'heures pour se diviser, pour obtenir, on va dire, une masse critique de cellules et passer dans un bioréacteur de plusieurs milliers de litres, il va falloir quand même plusieurs jours. L'étape de purification dans un contexte industriel, on appelle ça le downstream process. Et durant cette purification, eh bien, on va appliquer des techniques de chromatographie, par exemple, qui vont nous permettre de faire du triage moléculaire, parce que les cellules, elles sont vivantes, donc elles vont bien sûr synthétiser la molécule qui nous intéresse, mais elles vont aussi synthétiser tout un tas de molécules qui, elles, doivent être éliminées, en fait. Et donc la purification, c'est faire ce tri, en quelque sorte, en appliquant différentes techniques successives.
Alors la chromatographie, est-ce que vous voulez préciser de quoi il s'agit ?
Alors, la chromatographie, c'est une technique séparative. On a deux phases. Une phase qui est chargée de retenir la molécule d'intérêt et une autre phase qui, elle, va être chargée d'entraîner les molécules qui ne nous intéressent pas. Et on va utiliser notamment des équipements qu'on appelle colonnes de chromatographie dans lesquelles on va introduire des résines de chromatographie qui possèdent justement ces propriétés de rétention si particulières.
Merci. Alors là, c'est cette belle machine qui est devant nous avec des tuyaux partout. Et c'est quoi ?
Alors ça, c'est un pilote de chromatographie. Donc c'est vraiment l'équipement qui va nous permettre de contrôler la purification en utilisant une colonne de chromatographie. Et sur ce pilote, on va retrouver des systèmes de pompe, mais on va aussi retrouver des capteurs comme un spectrophotomètre, un conductimètre, un pH-mètre, etc., etc.
Donc là, on a plusieurs fioles avec de l'éthanol, de l'eau. Qu'est-ce que c'est, en fait, comment ça fonctionne ? C'est-à-dire que les cellules sont envoyées dedans, ça sort, comment ça marche ?
Alors en fait, là, actuellement, l'équipement est à l'arrêt. Il est toujours conditionné en éthanol hein, pour favoriser, effectivement, éviter le développement des micro-organismes, etc. Mais lors d'une étape de séparation, on va effectivement injecter sur la colonne le milieu de culture qui contient la molécule d'intérêt. Et donc, effectivement, on va intégrer dans le pilote ces solutions à purifier.
Ah, c'est pas mis en marche pour les visites. Tant pis.
On a vu l'étape d'amplification cellulaire, hein, ce qu'on appelle l'upstream process. On a vu le downstream process, c'est-à-dire les étapes de purification, de triage moléculaire. Et ensuite, il y a les étapes de formulation et de mise sous forme du médicament, ce qu'on appelle dans le jargon le fill and finish. Et donc, on va faire du remplissage aseptique, on va ajouter les excipients, etc. Voilà, et c'est cet espace qui permet de réaliser ces opérations.
Donc là, on a plusieurs plans de travail.
Ça, c'est un mélangeur, en fait. Donc, c'est un système qui permet de bien homogénéiser. Hein, quand on a ajouté les excipients, il faut absolument que ces excipients soient distribués de manière homogène à l'intérieur du produit. Et on peut tout à fait utiliser des mélangeurs comme celui-ci. Quand on parle de biomédicaments, on parle souvent de produits injectables. Hein, la plupart des biomédicaments sont des produits injectables, même si ce n'est pas exclusif. Les produits injectables doivent répondre à certaines normes de qualité. Ils doivent être notamment isotoniques, en fait.
C'est-à-dire ?
Alors, isotonique, c'est une histoire de concentration en sel. C'est-à-dire que quand on injecte le médicament au patient, il ne faudrait pas que ça abîme les cellules du patient, provoque leur explosion, en fait. Et donc, ça se contrôle en utilisant des équipements qu'on appelle osmomètres, notamment. Donc, vous avez un exemplaire face à vous.
Comment ça marche, ce petit engin-là ? Un espèce de rectangle en trois dimensions jaune. Comment ça marche ?
Voilà. Alors, comment ça marche ? Déjà, il faut faire un prélèvement au niveau du produit. Et ce prélèvement, on va l'analyser en utilisant justement l'osmomètre. Donc, on met un tout petit échantillon dans un microtube. Et ensuite, l'équipement va réaliser la mesure de manière automatisée. Et on cherche à mesurer ce qu'on appelle une osmolarité, justement. On doit être dans un intervalle défini pour être conforme.
On va redescendre pour aller voir les laboratoires d'analyse.
Ici, on a des laboratoires un peu plus conventionnels, hein, qui sont des laboratoires qui sont dédiés à l'analyse des médicaments. Hein, pour vérifier qu'ils répondent bien aux standards en termes de qualité. Donc on peut appliquer des techniques de spectrophotométrie, par exemple, des techniques de chromatographie HPLC, pour vérifier que le médicament répond bien à des critères de pureté, de stabilité, etc.
Et donc ça, c'est dans les conditions du réel. Donc il y a vos étudiants au IMT qui viennent ici, mais est-ce que vous avez des partenariats avec d'autres structures d'enseignement ?
Alors on a effectivement des partenariats avec d'autres structures, on a des partenariats avec des écoles d'ingénieurs notamment, on a des partenariats aussi avec des industriels et d'ailleurs le groupe IMT forme régulièrement des industriels sur des thèmes très spécifiques.
La formation continue ?
Dans le cadre de la formation continue salariée, tout à fait.
Bien, merci à vous.
Merci.
Eh ben c'est en fait le magazine Passerelle, on le rédige avec le GREPIC, le groupement régional des industries pharma. Et donc c'est une journaliste spécialisée qui nous accompagne sur les constructions de ces dossiers. Et on a des précédents numéros, il y a un ou deux numéros avant cela, où on a fait un dossier vraiment sur la place des femmes dans la pharma.
Et alors ?
Je ne le connais pas par cœur, il faudrait que je le
retrouve. Non mais en résumé, disons la substantifique moelle. Est-ce que vous avez contribué pour donner envie aux gens d'aller lire cette publication, comment vous le résumeriez ?
Eh bien, on voit que dans l'industrie pharmaceutique, on a un taux de féminisation qui est légèrement supérieur à la moyenne. Donc, on voit quelque chose d'assez équilibré. Et dans nos formations, ça se ressent, puisque sur nos formations de techniciens spécialisés en bioproduction, on a une majorité de femmes dans les formations. Et c'est nettement plus marqué sur les formations de niveau Bac plus 5, formations ingénieurs dans lesquelles on intervient, où on a une grande majorité, 60, 75% à peu près, de femmes dans les promos.
Donc pas d'Elisabeth Borne aujourd'hui, mais peut-être que vous voudriez nous donner à voir ce qui va se passer toute la journée sur au BioCube. C'est un événement qui est ouvert au grand public. Qu'est-ce que vous aimeriez en dire ?
Bien sûr, alors là on est sur la deuxième édition de la Journée nationale de la bioproduction de biomédicaments, qui est donc, comme je l'ai dit, un axe stratégique bien pour la France. Et France Biolide est donc à l'initiative de cette journée. Il y a donc des événements un petit peu partout en France aujourd'hui. Et nous avons décidé de faire un événement fédérateur en rassemblant une grande partie des acteurs, du moins des représentants de l'ensemble de la chaîne de valeur du biomédicament, sur le site du BioCube. Et voilà, d'en faire une journée fédératrice, faire connaître notre secteur aux jeunes, au grand public, montrer que c'est un secteur d'avenir qui va recruter, qui recrute déjà, qui va recruter, voilà, au travers d'activités diverses et variées. Vous allez pouvoir évidemment rencontrer les différents professionnels, échanger avec eux. On a prévu des conférences, des ateliers, des visites du BioCube, évidemment, qui est dans des conditions industrielles, et donc permet vraiment de se rendre compte quel est l'environnement de travail quand on bioproduit. Le but de cette journée, c'est de faire rayonner aussi la région Centre-Val de Loire et montrer qu'on a de beaux atouts, des talents dans la région et qu'il faut continuer à développer ça et qu'on arrivera à le faire que ensemble, puisque c'est aussi évidemment l'intelligence collective qui est mise en avant dans cette journée.
Ce reportage est à retrouver sur notre site radiocampustour.com.
Radio Campus Tour.
Tiens quand même à dire aux auditeurs que je découvre. Car Radio Campus Tour, nous avons du sucre de gauche.
Radio Campus Tour.
C'est quoi du sucre de gauche ?
Quand on a commencé à se rendre compte qu'il y avait des problèmes environnementaux qui allaient être croissants, beaucoup de gens ont décidé que le sucre habituel, le sucre blanc, était trop raffiné, pollueur, etc.
99.5 FM.
Et donc, a été... inventé le sucre roux, la cassonade. On appelait ça le sucre de gauche, parce que tous les gens qui se préoccupaient dans les années 70 d'écologie étaient rarement des gens de droite. C'était une façon sucrière de classer, de faire de la politique.
Radiocampustour.com.